Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements en destin.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres, vous êtes bien avec nous dans l'émission Le Gang des Hystériles, l'émission qui décapote les idées reçues, les stéréotypes à la sauce féministe. Alors aujourd'hui c'est l'été et aujourd'hui c'est une émission spéciale culture, donc avec Florian,
bonjour à tous. Bonjour.
Olivia,
bonjour.
Camille, bonjour Camille, Marin.
Salut.
Mouna.
Bonjour.
Et Lily.
Bonjour.
Donc on est très nombreuses autour de la table donc pour parler aujourd'hui des références culturelles que nous avons lues, que nous avons vues ou écoutées et tout ça pour vous conseiller durant vos vacances et votre été. Donc je rappelle que cette émission est diffusée sur PFM tous les troisièmes lundis du mois et que vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de la web radio Micro Rebelle. Et nous allons commencer donc cette émission avec Olivia et un agenda dans lequel tu nous proposes plusieurs choses. Non, pas
non, à vrai dire. Dans cet agenda, je vous rappelle juste qu'il y a donc une journée à la mer qui est organisée par le planning familial de Lens. Donc, cette journée à la mer, eh ben, elle a lieu le 3 août en bus, donc au départ de Lens. On propose aux femmes et leurs enfants de passer une journée à la plage, une matinée à la plage avec un pique-nique à Boulogne et l'après-midi, une visite de Nausicaa. Voilà, donc les inscriptions sont peut-être encore possibles. Alors, je dis peut-être encore possible.
Il faut contacter le planning.
Voilà, il faut contacter le planning par téléphone. Juste rappeler que le départ est à Lens à 9h le 3 août.
Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'était tout pour ce
qu'il y avait. C'est tout pour l'agenda.
Je pensais qu'il y avait absolument plusieurs choses, c'est pour ça que je t'avais lancé sur... mais non.
Okay. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, on a plusieurs veillées féministes qui se font un peu partout pendant l'été, donc de juillet et août. Et si vous souhaitez faire partie aussi de ces moments, vous pouvez toujours contacter le planning et ça fera toujours des personnes en plus.
Et on vous retrouvera le numéro durant le cours de l'émission.
Et puis si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ce qui va se faire aussi pour la rentrée, vous n'hésitez pas à regarder le Facebook du Planning Familial 62.
Voilà, voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, une émission spéciale sur la culture pour savoir comment se cultiver durant ses vacances d'été. Cette émission va se dérouler en plusieurs moments, plusieurs parties. Et tout de suite, nous pouvons commencer peut-être avec une première partie sur les films et les séries. Peut-être que je peux commencer par vous parler d'une série qui s'appelle Mare of Easttown, qui est diffusée actuellement et depuis peu sur OCS, mais que vous pouvez retrouver aussi et télécharger sur Internet. Alors, Mère... Oups, mais voilà, il faut payer par contre. Hein. Donc ça raconte, donc ça se passe dans la petite ville d'Easttown aux États-Unis et on suit le personnage de Marianne, donc le diminutif c'est mère, d'où le titre. Et Marianne, donc c'est une femme policière qui travaille dans cette ville-là et qui porte un peu sur ses épaules toutes les enquêtes de la ville. Donc habituellement il se passe pas grand-chose, mais bien sûr, comme par hasard, là, dès le début de la série, on sent que ça va chauffer un petit peu. Ce personnage est quand même assez atypique. Il est incarné par Kate Winslet, que vous connaissez très bien du fait du film Titanic, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, le simple...
The Queen of the World.
Voilà, c'est ça. Donc Kate Winslet incarne ce personnage de mère et dès le départ, on sent qu'elle n'aime pas beaucoup la vie. C'est un personnage qui est complètement déprimé. On ne comprend pas bien pourquoi elle est tout le temps de mauvaise humeur. Il n'y a jamais rien qui va. Elle se fiche pas mal de savoir où est-ce qu'elle jette ses poubelles. Elle est un peu rock'n'roll. Et en même temps, on voit que ce n'est pas la joie. Elle vit dans une maison avec sa mère et sa fille, ainsi que son petit-fils. Donc au départ, on ne sait pas de qui est cet enfant. On l'apprendra un peu plus tard. Elle est divorcée. Son mari habite quasiment dans le jardin, pas très loin de chez elle. Et donc l'histoire débute sur ce tableau-là. Et en fait, Mère, qui est donc policière dans cette ville, enquêtait déjà depuis un an sur la disparition d'une jeune fille. Et elle est déjà très, très critiquée parce qu'en fait, ça fait un an et la mère est révoltée parce qu'elle n'a toujours pas des nouvelles de son enfant. Donc elle est révoltée après Mère. Et donc toute la ville avec elle... et contre ce personnage, donc Marianne. Et donc ça, c'est déjà un peu le prologue. Et par la suite, en fait, dès le premier épisode, il y a un autre personnage qui va disparaître. Un personnage va même mourir. Une jeune fille va être retrouvée morte. Donc là, on voit déjà dans un premier temps une grande galerie de personnages féminins. Donc il y a Marianne, sa mère, sa fille également, plus les deux personnages qui ont disparu et donc qu'elle recherche. Et à partir de là, en fait, on va suivre Marianne à travers à la fois une enquête à travers la ville pour retrouver ces deux filles disparues et pourquoi l'une d'entre elles est morte. Et on va suivre également Marianne à travers sa vie personnelle et intime, et on va apprendre à la connaître, à découvrir ses failles, ses difficultés. Et ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est le fait que c'est un personnage déjà complexe, mais aussi qui va évoluer durant toute la série, parce qu'au départ, certes, elle n'est pas bien, mais progressivement, en fait, à travers cette enquête, elle va retrouver un peu le goût de la vie. Et c'est ça qui est agréable, contrairement à d'autres séries dans lesquelles on peut plutôt tout au long s'apitoyer sur le sort de nos personnages, alors que là, vraiment, on est heureux et heureuse de voir... un beau déroulé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivia, toi qui as déjà vu aussi la série.
Ouais, moi je la recommande vraiment, ne serait-ce que pour ce personnage de Kate Winslet qui est vraiment extraordinaire de naturel. Enfin, elle n'est absolument pas maquillée, elle est complètement... elle porte toute sa fatigue, mais sans... c'est pas caricatural du tout. On ne dit pas juste « Ah, elle est très fatiguée », mais... Enfin voilà, il n'y a pas d'esthétisation derrière.
C'est pas cette série-là dont on a entendu parler un peu dans la presse ou autre, parce que justement elle avait refusé qu'on retouche les images pour lui enlever des rides, par exemple autour des yeux.
Si,
et puis
absolument.
Aussi son ventre, je crois qu'elle avait. Ouais. Ils avaient retouché des images où elle est un peu peut-être nue ou je sais pas quoi,
ouais.
Mais où ils avaient essayé de la faire plus mince ou plus musclée. Qu'elle le serait, puis elle avait
retoucher
refusé
son
ça.
Ventre. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait une partie de l'équipe qui avait dit « Bon, t'inquiète pas, pour ton petit bourrelet, on va pouvoir le retoucher. » Et je ne me souviens pas de sa phrase originale, mais elle avait sorti un truc du style « T'avises même pas d'y penser, quoi. » Pas touche à mon bourrelet, s'il te plaît. Voilà. Bravo, Kate. Et juste, voilà, pour l'atmosphère, moi, ça m'a un petit peu fait penser à deux séries britanniques qui sont Broadchurch et Happy Valley, qui sont deux séries que j'adore. Et c'est un peu dans cet esprit-là, voilà.
Par contre, Broadchurch, c'est très noir. Hein, c'est pas du tout le même délire.
Bah, Mare of Easttown, c'est très noir aussi. Hein. Ouais, on n'est pas là pour rigoler non plus. Hein.
Quand Sarah disait que le personnage s'émancipait de par le truc, là par contre, Broadchurch, les trois saisons, c'est à chaque fois une descente aux enfers.
Oui, hein, c'est vrai.
Là, si vous êtes déprimé, il ne faut pas regarder Broadchurch, hein, même si esthétiquement, musicalement, il est très beau. C'est pas... Si vous n'êtes pas bien, il ne faut pas regarder.
Bah, Mare of Easttown, on est quand même en enfer aussi. Hein. C'est très, très dur. Il y a des moments en plus dans la série. Donc, c'est une mini-série qui est composée de 6 ou 8 épisodes, je crois. Et il y a quand même... des moments qui sont assez durs parce qu'on va s'attacher à des personnages et bon, je ne vous dis pas qui, mais il y a certains personnages qui vont disparaître.
Ah oui, on ne divulgage pas. On ne divulgage pas pendant l'émission.
C'est lourd, mais malgré tout ça, malgré le fait qu'elle est en enfer, et c'est ça qui est vraiment super, je trouve, c'est que elle se sort de ça, elle rebondit, elle a quand même perdu son enfant, enfin un de ses enfants quand même. C'est pour ça aussi que elle ne va pas très bien. Mais bon, ça c'est pas un spoiler, je vous rassure. Et elle va retrouver de la joie à travers aussi une introspection et elle va retrouver de la combativité. Et ça, c'était vraiment chouette à voir, quoi. Voilà, donc ça, c'est Mare Easttown, que vous pouvez voir sur OCS, que vous pouvez retrouver ailleurs.
On vous mettra les liens sur la page de Micro Rebelle avec l'émission.
Et on va passer maintenant peut-être avec Camille, qui a cette fois-ci un manga, je crois, à nous conseiller, ou un dessin animé. Alors précise-moi, parce que tu peux me dire, je ne suis pas au fait.
Alors Camille,
tu vas tout nous révéler.
Vu que je le connais, si tu as des petits bugs, t'inquiète pas, je pourrais t'aider.
D'accord. C'est une série animée, pas un animé ou un manga, mais un dessin animé.
D'accord.
Comment il s'appelle ?
Voilà. Il s'appelle Shira, les princesses au pouvoir.
Et ça parle de quoi ?
Ça parle d'un univers avec des princesses, mais pas des princesses comme dans les contes et tout. En fait, c'est un nom pour les filles qui ont des pouvoirs magiques un peu. Et donc ces princesses, elles vont combattre une armée qui s'appelle la Horde, donc à peu près les méchants de l'histoire, qui vont... Donc la Horde essaye de conquérir le monde. Donc déjà, bon, bah, là, on peut dire que c'est assez banal comme histoire. Mais vraiment, après, quand on regarde, quand on essaye de regarder un peu plus dans la série, on voit que c'est pas juste une histoire banale de personnages qui essayent d'arrêter des méchants pas beaux, quoi.
Et alors justement, c'est quoi la particularité de cette série ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est pas banale ? Et qu'on doit la regarder, alors ? Peut-être les personnages, hein. Qu'est-ce qu'ils ont ces personnages ? Et Shira, du coup, c'est qui ? C'est un personnage, Shira, ou c'est juste le titre de la série ? C'est quoi ?
Oui, Shira, c'est... Comment expliquer ? Un personnage qui... C'est pas vraiment un personnage, c'est une sorte de personne qui peut entrer en toi, à peu près.
Ok.
C'est l'alter ego de l'héroïne, en fait, quand elle a ses pouvoirs. Elle se transforme en Shira, en fait. Et c'est la grande héroïne qui, d'après la prophétie, devrait sauver le monde. Mais on voit qu'au fur et à mesure des saisons, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Même si ça se finit bien, mais ça tourne, il y a des questions. Est-ce qu'elle est faite pour faire ça ? Est-ce que ses amis la soutiennent ? Parce que l'héroïne, on apprend qu'au début, l'héroïne fait partie de la Horde. Et elle va rencontrer des princesses. Et c'est en rencontrant ces princesses qu'elle va passer dans le camp adverse parce qu'elle a découvert qu'elle avait ces pouvoirs-là. Et donc, elle va aider les princesses à combattre la Horde.
D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, du coup, par rapport à ce qu'a dit Florian ?
Et en fait, tous ses pouvoirs, elle le trouve avec une épée, en fait, qu'elle va... En fait, elle va attraper et va soudainement, en fait, elle va avoir des pouvoirs super puissants. Ou... En fait, elle, quand il y a un danger directement, elle a levé son épée et puis elle se transforme en une femme super puissante et tout. Donc voilà, c'est à peu près ça pour Shira.
D'accord.
Enfin, pas Shira, juste la souris, mais genre Shira, qu'est-ce que c'est
Ok.
Et c'est des personnages qui sont très queer. On voit déjà le dessin, il est très coloré, il est très fluo, à part quand la Horde arrive, ça devient très sombre. Mais les personnages sont déjà très hauts en couleur. Et on apprend qu'il y a une histoire d'amour entre deux filles. Il y a des relations amicales entre deux filles. Enfin, on comprend rapidement qu'en fait, il y a une histoire d'amour, c'est pas que amical. Le seul personnage masculin du groupe, il a deux papas et il a plein de frères. Donc il y a plein de comme ça de références LGBT+. Et en plus d'avoir des filles en mode guerrière badass qui vont détruire les méchants, c'est très LGBT comme série également.
Et du coup, on rentre dans une psychologie des personnages un peu complexe finalement, puisqu'on c'est pas une ligne droite, quoi. C'est...
Non, le personnage de Shira est vraiment très compliqué parce que il y a en fait Shira, c'est un personnage qui revient dans le temps. À chaque fois qu'il y a un danger, elle va revenir à différentes époques. Et en fait, il y a la précédente qui est devenue démente à cause de ce pouvoir-là. Et donc, la nouvelle Shira va essayer de ne pas le devenir également. Donc, elle passe par plein de réflexions et ça peut faire écho à certaines personnes.
Et moi, je voulais juste ajouter par rapport au personnage masculin dont tu parles, ce qui est super intéressant, c'est qu'il est représenté... Enfin, voilà, c'est un garçon qui valorise énormément l'amitié avec les princesses. D'ailleurs, il s'appelle le gang des meilleurs amis. C'est ça, hein,
Camille ? Oui, c'est ça.
Ouais. Et il a plein d'émotions. Il lui arrive d'avoir peur. Il demande de l'aide aux princesses. Et voilà, rien que pour ça...
Il se balade en crop top quand même.
Il se balade en crop top, c'est vrai. Avec un cœur rouge.
Oui, parce qu'il s'appelle Flèche d'or.
Et puis, il y a des méchantes, en fait. Ce qui était pas mal aussi, c'est que des méchantes et puis pas le stéréotype de la méchante. Parce que dans les contes, comme disait Camille, dans les histoires un peu plus banales, soit c'est souvent des méchants, les filles elles sont gentilles, elles sont douces, surtout les princesses, ou alors la méchante c'est une sorcière, elle va être vieille, moche ou un truc comme ça.
Il y a une sorcière.
mais là les méchantes c'est aussi des jeunes filles et puis puis Shira elle passe d'un côté à un autre quoi. Ouais.
Et puis aussi, il y a des fois, la sorcière, par exemple, elle n'est pas restée méchante tout le temps. Comme dans certains contes, elles finissent toujours mal. Et dans ces animés, elle a pas mal fini. Puis il y a la méchante, il y a une méchante des fois qui se remet en question parce qu'elle n'est pas sûre, mais elle est un peu... dirigée comme une sorte de... C'est quelqu'un qui la dirige, du coup elle fait... Elle aimerait bien rejoindre son ami, mais c'est le grand chef qui la dirige.
Donc en fait, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que... je vais vraiment pas... ne pas spoiler.
Moi je connais pas, je veux pas de spoiler.
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Adora, la protagoniste, donc en fait elle était pas seule dans la horde, donc les méchants. Elle avait une amie qui s'appelle Catra et tout, et en fait on va aussi voir le point de vue de Catra qui va se sentir trahie et tout, qui va se dire mais comment elle a fait, elle me laisse ici quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vraiment des amis ennemis en fait que ça devient vraiment ça.
Oh, c'est trop bien. Ça me donne envie de voir. Hein.
Mais carrément, Sarah, je te rejoins. Je crois que...
ça donne envie de crier par le pouvoir du grand ancestral.
Et c'est sur Netflix.
Peut-être qu'on pourrait faire une petite pause musicale maintenant.
Ah, on peut, il n'y a pas de souci.
Ok, pause musicale. Nous sommes à l'aube de la grandeur, changeant l'ombre en clarté, prêts à combattre à vos côtés.
Le gang des histoires. Le gang.
Bim.
Voilà, de retour donc sur PFM ou bien via la web radio Micro Rebelle. Vous êtes bien avec nous sur le gang des hystériles. Et nous parlions juste avant cette petite pause musicale de la série animée Shira avec Camille. Et donc Camille, tu peux nous vous épeler peut-être le titre de Shira.
Donc c'est S-H-E, donc comme she, donc en anglais elle, voilà.
Ouais, she, ouais.
Et puis après il y a un tiret,
et après R.A.
D'accord, ok. Et je crois que tu avais des précisions à apporter aussi sur la série.
C'était pour un peu dire quand elle est sortie et tout.
Vas-y.
Donc, c'est aussi où on peut la trouver. Donc. C'est une série d'animation donc, diffusée sur Netflix, qui a été créée aux États-Unis et aussi créée par Noël Stevenson, qui est une femme, donc déjà, ça c'est cool. Et qui a débuté en 2018 et qui a fini en 2020.
D'accord. Bon, bah maintenant, on sait où retrouver la série. Et vous savez quoi faire maintenant, peut-être de votre soirée.
Et pour la petite histoire, pour les anciens, anciennes, Shira serait la sœur de Musclor.
Ah, ça nous avance beaucoup, tout ça.
Mais pour la petite histoire, pour dire qu'il y a eu le personnage, le frère, qu'on connaît depuis très longtemps. Et en fait, la sœur, on la ressort que maintenant en mode badass. Donc voilà.
Il nous faisait déjà le coup du pouvoir
du crâne ancestral.
Ouais. Ouais, voilà, c'était, je sais pas, genre.
C'était le crâne. Le
pouvoir ouais, mais là, c'était avant, c'est l'épée, je sais pas, l'épée ancestrale, je sais pas, ou un truc du genre. Mais oui, tu m'avais directement dit. mais c'est.
Musclor. J'ai connu, voilà.
Eh bien, après avoir parlé de films et de séries animées, on va parler de livres avec Marin ou pas. Ou de. Avec Lily, pardon.
Ouais, on avait encore des.
Il y a encore
des séries à. On a encore des films et des séries à proposer, si vous aviez envie.
J'ai très envie. Vas-y.
Alors, est-ce que tu veux faire les tiennes ou moi d'abord
Tu commences.
C'est moi d'abord. Bon. Eh bien, moi, je voulais vous parler de deux séries. Dont la première, fabuleuse, magistrale, transcendante, j'aurais dû...
Céline Sciamma. Non, c'est pas ça, merde.
Non, c'est The Fall.
Ah, non, c'est pas loin.
Donc, ah oui, Gillian Anderson.
Voilà, alors, bon, c'est pareil, oui, c'est aussi un petit coup de cœur pour ceux qui ont eu 15-16 ans dans les années 90 et qui ont adoré X-Files, tout ça, donc évidemment. Ouais, voilà, la vérité est ailleurs, tout ça. Donc c'est l'actrice principale et donc Gillian Anderson. Le créateur de la série, c'est Alan Kubit, avec mon beautiful English accent. Et donc, c'est pas une série hyper, hyper récente, hein. C'est 2013-2016 avec 3 saisons. Moi, je l'ai trouvé magistral à vraiment plein de points de vue, l'ambiance, l'image. Le travail des personnages, évidemment, mais surtout voilà, le rôle que Gillian Anderson joue là-dedans. Elle joue une commissaire anglaise, londonienne, mais qui va enquêter à Belfast. Et donc, on est sur une histoire banale aussi de serial killer. What? A serial killer? Ça, je sais le dire, avec mon petit full English accent. Hein. Mais là, pour une fois, contrairement aux histoires banales de serial killer...
Quoi ? Tu pourrais nous faire un petit générique, je pense, Lily. Ouais, serial killer.
On a plein de moments, des petites pépites dans son attitude à elle, dans les dialogues, dans ce qu'on lui fait dire, évidemment, hein, et qui va en fait mettre en exergue ce qui, dans d'autres séries, sur des serial killers ou d'autres films, pourrait passer comme complètement anodin, le sexisme ordinaire, le patriarcat, les habitudes. Et là, elle, par son positionnement, par les remarques qu'elle va pouvoir faire, là, on voit, ça saute aux yeux, en fait. Mais en fait, j'ai envie de dire que la série, elle coche toutes les cases, par exemple, du test d'Alison
Bechdel,
parce que, bien que ce soit un univers extrêmement masculin, finalement, comme dans plein d'autres séries, elle va être là, les commissaires. Elle va évidemment rencontrer d'autres femmes qui travaillent, parce qu'on sait que dans le monde occidental, les femmes sont énormément sur dans le monde du travail à différents points de vue. Mais on peut y être tout en n'ayant pas du tout une ambiance égalitaire, tout en n'ayant pas de discours féministe. Là, on sent une sororité qui est installée à chacune des rencontres entre les personnages féminins.
Et elles vont parler d'autre chose que de leur relation avec les hommes.
Voilà, c'est-à-dire que même quand elles se rencontrent et qu'elles pourraient être amenées à ne parler que du serial killer, qui, soit dit en passant, est quand même plutôt... voilà, remplit tout ce qui fait que du coup on manque de sororité parce qu'il est beau, parce qu'il est charismatique, parce qu'il est envoûtant.
Et bien sûr, il tue des femmes.
Et évidemment, ouais, sinon ce serait un moche serial killer.
Serial killer
pratique. Mais il y a toutes les ficelles de la manipulation de l'agresseur de femmes. Ils sont toutes présentes. La honte, l'angoisse, le non-dit, le tabou. Mais effectivement, quand les femmes se rencontrent, quand elles ont le temps de se poser entre elles, elles discutent effectivement d'autres choses que des hommes ou des attitudes des hommes. Elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de leurs ressentis, elles parlent de leurs difficultés, de la manière dont elles peuvent voir même l'affaire et que leur point de vue puisse ne pas être partagé par d'autres. Il y a plein de moments qui sont intéressants comme ça. Les premiers moments, la première saison peuvent être des moments... Moi, à un moment, ça m'a... J'ai même pu dire, finalement, c'était tellement fin sur plein de points que la grosse ficelle, c'est une des plus grosses ficelles, alors je vais un chouïa divulgâcher, mais finalement, c'est pas le point primordial, c'est qu'on lui a fait endosser l'exacte attitude que certains hommes peuvent avoir dans la prédation sexuelle, hein, c'est-à-dire dans l'attitude de séduction et de se dire, de toute façon, elle est chef. Elle est la supérieure hiérarchique, elle est plus âgée, puis elle vient de Londres, quoi. Enfin, voilà, elle vient de Londres et finalement, elle débarque plus ou moins en province. Et elle se
Donc elle
sert,
domine,
elle domine et on la voit se servir de tous ces éléments de domination pour choisir ses partenaires. Et là, au moins, cet intérêt de cette grosse ficelle, c'est de se dire, bah, effectivement, finalement, quand c'est des hommes qui le font, oui, nous, avec un regard féministe, on est débectés, on dit, ah là, c'est bon, enfin, on nous l'a fait 50 fois, naninana.
Mais on voit. Notre regard ne s'y attarde même plus, puisqu'on est habitué, en fait.
Parce qu'on est habitué. Et là, le fait que ce soit fait comme ça, de manière si froide, si crue et tout, c'était vraiment. Moi, la première saison, je suis restée un peu scotchée, de me dire, oh la vache. Et après, dans les autres saisons, ça revient beaucoup plus en finesse sur ces histoires de sororité et d'angoisse. À plein de moments, les acteurs, les personnages masculins sont renvoyés dans leur filet quand ils ne comprennent pas, par exemple, les inquiétudes, les points de vue, les attitudes, ou alors quand ils sont choqués par le mal incarné de ce serial killer. Et où elle dit, mais bah non, c'est un homme. Voilà. Et il y a un peu un résumé en disant, quand les hommes parlent de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à craindre des femmes, c'est qu'elles se moquent d'eux. Et ça les angoisse et ça peut les rendre violents. Sauf que les femmes entre elles, quand elles parlent de pourquoi elles auraient peur des hommes, c'est parce qu'elles ont peur que les hommes les tuent. Et elles renvoient souvent les autres personnages comme ça. Donc vraiment, cette série... comment dire, ce fil déroulé sur 3 saisons est vraiment chouette. Et puis moi, j'aime beaucoup le fait que... parce que j'avais envie de vous parler aussi de It's a Sin, qui est plus récente, qui est de 2021.
Ouais, vas-y. Pour dire, mais du coup, c'est marrant, là, cette Gillian Anderson qui joue ce rôle de femme dominante dans cette série-là et qui, par la suite, juste peut-être 2 ou 3 ans après, va être réemployée dans un rôle aussi de femme dominante à travers la série Sex Education, où là, c'est une psychologue qui est une vraie vamp, qui écrase même... la masculinité à travers son personnage. C'est rigolo qu'elle soit après qu'elle reprenne un peu ce rôle de domination dans une autre série, quoi. C'était juste pour dire voilà.
Ouais, mais elle se l'est choisie, j'imagine les rôles. J'imagine, oui, c'est une évidence, mais peut-être que elle y travaille aussi, je pense. Mais c'était déjà quelque chose qui était un peu en filigrane dans son jeu d'acteur dans X-Files, qui est beaucoup plus vieux, parce que X-Files, c'était une série qui était assez étonnante, parce que, par exemple, elle était très froide. Ils ont mis énormément de temps avant d'imaginer quelque chose de plus proche que le simple fait d'être collègue entre Mulder et Scully. C'était assez froid. Il n'y avait pas cette sexualisation qu'on peut mettre la plupart du temps dans tous les personnages, peut-être à l'heure actuelle. Donc, ça se voit beaucoup dans les rôles, effectivement, qu'elle choisit. Mais
donc du coup, je t'ai coupé. Donc ouais, là, tu veux nous parler
que de The Fall, ce qui me plaisait dans ce type de série, c'était que on prend un autre prétexte. Là, on prend la banale histoire du serial killer. Donc c'est la série policière, mais finalement, on peut traiter de manière complètement transversale des questions de domination, des questions de sexisme et de violence de genre.
Bah là, du coup, ça rappelle totalement Mare of Easttown dont je parlais au départ.
Voilà, ouais. Voilà. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'après, pour discuter de questions de genre ou même LGBT, parce qu'il y a, une liberté, une plus grande liberté dans ses choix de partenaires que dans une histoire classique. Mais on pourrait parler effectivement de It's a Sin, qui est absolument génial, qui parle des années 80 à Londres, de cette jeunesse qui vient s'éclater, les provinciaux qui viennent vivre leur vraie vie à Londres, loin des parents, et donc ils peuvent se permettre d'être gays, lesbiennes, trans, de manière beaucoup plus libre. Et vlan arrive l'épidémie de sida. Donc elle est absolument géniale aussi. Mais finalement, on sait que le sujet va être traité. Il n'y a pas de transversalité, c'est-à-dire on traite d'un sujet. Dans The Fall, on croit qu'on regarde un policier et on regarde quelque chose de féministe. Ce qui m'en vient à la deuxième série, mais je vais essayer de faire plus court.
Comment tu écris The Fall ?
F-A-2-L.
D'accord. La chute. The Fall, la chute. Okay. Et on peut la trouver où, du coup, cette série ?
Là, moi, je l'ai vue sur Canal, il me semble.
D'accord.
Voilà.
Ok, merci.
et là, donc, l'autre dont je voulais parler, c'était Black Summer. Bon, parce que je me souviens plus si on en a déjà un peu parlé dans le gang, mais j'ai un petit faible pour les films et les séries de zombies. Le genre zombie me plaît énormément. Je trouve qu'il est toujours prétexte à traiter de critiques sociales. On pense qu'on voit un film de série Z, de zombie d'ailleurs. Mais voilà, on parle de domination, on parle de l'axe du mal, on parle de plein de choses. Et là, Black Summer, on regarde un film, c'est une série d'horreur, hein, c'est hyper trash, hein, donc âme sensible, s'abstenir. C'est très violent, c'est très rapide, c'est pas le bon vieux zombie qui marche lentement.
Pas un nanar, quoi.
Non. Là, c'est plutôt la nouvelle génération de zombies. Après, à partir des années 2000, on est plutôt sur du contaminé. Hein, on est un peu dans
plein de temps, dans la crise sanitaire, quoi. 28 jours plus tard.
Voilà, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, tout ça. Et là, Black Summer, donc c'est une contamination et paf, voilà, on arrive, on sait pas ce qui s'est passé, rien à foutre. Hein. On arrive directement les pieds dans le plat, dans l'action. La société a implosé, les codes sociaux ont tous explosé, mais on suit du coup là plusieurs femmes, donc une mère de famille, une femme seule, et finalement pendant deux saisons se joue la survie, la manière dont on peut survivre, des questions effectivement de domination, et finalement on peut pas parler, enfin si, ça peut être transversal, mais c'est juste le fait que les personnages les plus badass dans la capacité de survie, là c'est deux nanas en fait. Il y a de tout le monde, hein, il y a plein de personnages. Il y a beaucoup de morts, hein, voilà. En cela, elle change, elle innovait un peu par rapport à The Walking Dead par exemple. Qui vont nous bassiner pendant 12 saisons pour savoir who is in charge. I'm in charge, he's in charge. Non, on ne sait jamais qui c'est le chef. Enfin voilà, non, c'est un peu pénible quoi.
Et globalement, c'est toujours un mec quand même.
Ouais, ouais. À part un petit peu sur la fin, on pourrait, oui, mais vrai. Alors là, si vous me lancez là-dessus.
Prochaine émission.
Il faudrait qu'on fasse une heure là-dessus.
Voilà, en fait. Une heure sur le zombie. Oui.
Le zombie féministe.
Donc voilà, donc moi c'était The Fall et Black Summer qui a été créé par Carl Schaeffer et John Hyams, et dont les deux actrices les super badass là sont Jamie King et Christine Lee. Voilà.
Et est-ce que Lily, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut voir ces séries que tu nous recommandes?
Black Summer, il me semble que c'est Netflix.
Ah cool, ouais,
cool. Je pense que c'est Netflix.
On voit qui est abonné.
Pour celles et ceux qui aiment l'hémoglobine et les sensations fortes.
Et les cervelles apparentes.
Non, voilà, c'est vraiment du contaminé, c'est plus tellement du zombie, donc non, point trop de cervelle, beaucoup de sang. Bon. Puis des bruits hein, quand même, des trucs.
Ah,
trop
bien.
Voilà. Je te laisse la place, Mouna, qui a elle aussi une série à présenter.
Trop bien. C'est parti pour Mouna. On t'écoute. Alors, tu vas nous présenter quoi?
Moi, je vais vous présenter Kipo et l'âge des animonstres. Ça a été créé aux USA et en Corée du Sud. Il y a 3 saisons.
Donc, c'est un animé aussi? Ou c'est un dessin animé ou c'est...
C'est un dessin animé.
D'accord.
C'est l'histoire d'une... on est au 23e siècle et les animaux, ils ont muté. Maintenant, ce sont des mutants. Ils parlent, ils ont plusieurs jambes, plusieurs yeux. Et voilà. Et les humains, du coup, ils se sont fait chasser. Il y en a la plupart de la population, elle est allée se mettre sous terre. Et le reste essaye de survivre sur la terre. Puis, en fait, un jour, l'habitat sous terre, ce qui s'appelle le terrier, qui est cassé. Du coup, il y a une petite fille qui se fait éjecter à cause de beaucoup d'eau. Et après, en fait, avant qu'elle arrive, tout le monde restait dans son coin. Et quand elle est arrivée, comme elle connaissait pas bien les règles et tout ce qui était dangereux, à chaque fois, elle va parler. Puis, elle a rencontré des amis.
Donc, la petite fille, c'est Kipo, c'est ça, dont tu parles?
Oui. Oui. Et du coup, par exemple, quand ils veulent réaliser quelque chose, leur groupe, ils pensaient aller le faire tout seul. Mais finalement, Kipo, elle a demandé aux mutants. Elle leur a demandé, ils ont accepté parce qu'elle a été gentille.
Elle communique.
Elle a communiqué, elle n'est pas restée dans son coin.
Oui, puis elle paraît innocente, j'imagine. Enfin, c'est comme ça qu'elle arrive à sympathiser avec les super animaux mutants, non?
Si.
Ouais.
Si. Mais puis je crois qu'elle va au-delà du préjugé finalement. Comme elle vient d'arriver sur la surface de, elle arrive en surface.
Oui.
Après être extraite par l'eau là, elle arrive en surface et comme elle connaît rien, et ben elle tombe pas dans les, elle a pas déjà les préjugés sur les mutants ou les autres tel ou tel groupe et tout, et donc elle se dit tiens. Il y a tel problème.
Oui, sa naïveté la sauve.
Voilà, elle va discuter avec les gens et finalement, elle résout pas mal de situations juste en allant discuter et en allant au-delà du préjugé.
Alerte divulgâchage.
Alors Mouna, reprends donc ta place parce que là, je crois que tu te l'as fait voler.
Et puis du coup, il n'y a pas que des garçons comme personnages. D'ailleurs, il y a... le personnage principal, il y a Kipo, il y a une autre petite fille, il y a une autre fille et il y a un garçon. Ils sont... la petite fille s'appelle Louve et le garçon...
Ah, finalement, est-ce que Lily peut venir à la rescousse?
C'est ça, c'est les yeux de maman et...
Moi, je ne me souviens pas non plus du nom des personnages.
Voilà. Mais alors, du coup, c'est quoi l'objectif, en fait?
En fait, l'objectif de Kipo, c'est de... En fait, ils ont... Elle s'est, entre guillemets, noyée. Mais voilà. Et ils vont, eux, dans un... Elles pensent qu'ils vont dans un terrier... d'évacuation, qu'ils vont se sauver dans autre part. Et elle, son but, c'est de le retrouver pour pouvoir...
retrouver sa famille, peut-être.
Voilà.
Et ses parents.
Voilà.
Retrouver son père.
D'accord. Ok. Et du coup, sur sa route, elle va rencontrer donc différents personnages, dont ceux dont tu viens de parler.
Oui, il y a un garçon qui est...
Qui est humain ou qui est un animal, du coup?
Humain. Elle adopte aussi un petit cochon avec plein de pattes et plein d'yeux.
Ok.
Voilà. Et puis,
Et qu'est-ce que t'aimes bien dans cette série? Enfin, dans ce dessin animé?
Moi, j'aime bien parce que on pense que en fait ça va, on pense qu'elle va directement aller à son but, qu'il va rien se passer au-delà, qu'elle va rien trouver de d'autre, alors qu'on voit qu'en fait elle retrouve plein de choses.
Oui, elle apprend plein de choses sur sa route, quoi. Ok. Eh ben, c'est super. On peut le voir sur quoi ?
Sur Netflix, il est sur Netflix.
D'accord. Bon.
Puis il y a une petite visée écologiste aussi.
Ouais, bah forcément, oui. Oui, parce que au 23e siècle, se retrouver sur une planète dévastée où les animaux mutants chassent les humains, on l'a bien mérité quand même, voilà, hein, je pense.
Après une catastrophe écologiste, écologique. Et donc oui, le réalisateur, c'est Radford, mais alors on ne sait pas comment ça se prononce.
Vas-y avec ton super anglais.
Sequest ou quelque chose comme ça.
Serial Killer.
S-E-C-H-I-R-S-T.
Et Kipo, du coup, ça s'écrit K-I-P-O.
Très simple. Est-ce que tu as d'autres séries à nous présenter ?
Oui, une deuxième.
Vas-y.
Alors.
Est-ce qu'on se ferait pas une pause musicale là aussi ?
On peut.
Allez, c'est parti.
Pas de soucis.
On te retrouve après.
Les entends et où pourtant je dis rien, évitant tant que possible tout conflit inutile qui risquerait de nuire au paisible quotidien. J'entretiens tant et si bien que je m'y enlise. Les fois où je me mords les doigts de pas avoir su dire, à force de me taire, je manque sérieusement de répartie. Donc cherche à faire sentir sans heurter que leurs remarques banalisées visent toujours les mêmes cinq personnes. Pense à questionner toutes ces coïncidences, mais ils s'étonnent et se vexent qu'on leur en touche un mot. Trop certain d'être exempt de ce genre d'idéaux. Alors voilà qu'on passe pour part à notre service. Et que si la colère monte, elle devient prétexte à taxer d'hystérique. Et quand je me sens pas légitime à me positionner dans le camp de ceux et celles que le discours en bien pointe, qui m'a si rarement été lancé en pleine face, que je l'aperçois aussi blanche que le monde dans lequel je passe, le plus clair de mon temps. J'en viens presque à regretter de pas subir le délit de faciès au lieu de me pencher sur mes propres faits et gestes et admettre que je me laisse peut-être porter dans ce sens, même si je suis loin de penser être la seule que ça arrange. Que je blanche ou que je le paraisse, est-ce qu'il y a une différence si je marque pas la distance avec la place qu'on m'assigne de complice potentiel? Par ma position passive, j'entérine. Laisser planer les silences, ça arrange, c'est confortable pour tout le monde quand ça passe sans encombre. Ce qui n'empêche que je me repasse la scène en boucle sas toutes les fois où je réalise avoir posé sur les faces les clichés qu'en théorie je rejette. Et malgré tout le soin que je prends à détourner mon regard, je peux plus ignorer qu'ils m'envahissent la tête. Un politiquement correct lisent tous nos propos, au point que même dans ce texte, je tourne autour du pot.
Le gang des hystériques.
Le gang. Bim.
De retour dans notre émission spéciale culture, films et séries. Donc, juste avant, nous parlions d'un titre de dessin animé avec Mouna. Et nous reprenons sur une autre série ou un film. Je ne sais pas de quoi tu veux nous parler, mais on t'écoute.
D'une série.
Vas-y.
Qui s'appelle Carmen Sandiego, qui a été...
C'est trop bien, c'est toute mon enfance, pardon.
Qui a été réalisée aux USA et au Canada. Il y a 4 saisons. Le réalisateur, c'est Juan Capizzi. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui est orpheline, qui a été recueillie par une école de voleurs. Et qu'en fait, elle s'échappe et... Elle, après, en fait, elle vole, mais en fait, elle vole pas pour son compte, elle vole pour rendre à celui qui lui appartient, au responsable légal.
Elle vole les voleurs.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est pas très récent si Florian y connaît, en fait. Hein.
Bah, c'est de 2019.
Comment ça cache ? Alors...
C'est de 2019.
Ah bon ? Pas de moi de vieux. Alors, la série...
qui est sur Netflix date de 2019, mais Carmen Sandiego, ça date d'il y a très longtemps.
C'était un livre. Moi, j'ai mis... Avant, c'était un livre. Et les créateurs, c'est Jenny Portwood. Merck Iscapo.
Iscario. Ouais, moi, j'écris très mal.
Non, mais je crois qu'elle tient un peu de sa mère aussi, au niveau de la prononciation.
Ouais, ou bien, c'est ça.
Danny Bingham et
Lorraine
Elliott. Et ça a été réalisé
en 83,
en 83 à 2004. Donc, c'est normal, là.
Donc,
20 ans.
Et puis, regardais gamin, donc...
Ça a inspiré 13 jeux vidéo, il me semble, et 3 séries animées. Voilà. Mona nous parle aujourd'hui de celle de 2019, en fait.
Il y avait même un jeu télévisé là-dessus.
Mais non.
Si, il y avait un jeu télévisé. Et en fait, le jeu télévisé tient du jeu vidéo où en fait, nous sommes des policiers et il faut qu'on traque les voleurs de par le monde. Et en fait, une fois que tu as traqué 3 voleurs, tu vas tomber sur Carmen Sandiego, mais il faut des indices et il faut que tu te rendes au bon endroit du globe pour trouver le bon voleur. Mais si tu n'as pas le mandat, tu ne peux pas l'arrêter. Donc le voleur, il s'échappe. Enfin, c'était génial. Et le jeu, pareil, il était un peu dans la même veine où les enfants étaient habillés avec une parka, un chapeau de détective et ils devaient capturer Carmen Sandiego. Et s'ils l'avaient capturé, c'était bon, c'était gagné, quoi.
Flo, on sent la passion.
Ah, mais ouais. C'est toute ma vie. Quand j'ai vu que sur Netflix, il y avait la série, j'ai fait « c'est pas possible ». Mais par contre, ce qui a changé, c'est qu'à la base, Carmen est méchante. Sauf que là, elle devient gentille.
En fait, elle est gentille. Elle rend un peu voleur. Puis, il y a une dame qui connaît... son identité et en fait quand une société veut l'attraper, veut la capturer, elle ne pense pas que c'est les vrais méchants voleurs. Et à chaque fois, cette dame, elle dit mais non, elle est gentille, Carmen Sandiego. Mais non, ils sont toujours persuadés qu'elle est méchante.
C'est une policière d'Interpol qui travaille avec un policier qui, à la base, est dans l'équipe française, je crois, dans la police française, et qui se fait recruter par Interpol et qui, elle, soutient effectivement Carmen Sandiego.
Puis c'est pas surtout, c'est après, en fait, ils se font. Ils se font embaucher par une société secrète qui s'appelle l'Acme, du coup.
Et comment tu les trouves, les personnages, dedans, en fait?
Moi, je trouve que c'est bien, parce que y a Carmen Sandiego, il y a un garçon, il y a deux garçons, mais il y en a un qu'on connaît pas, parce que c'est lui qui fait comme si c'était le professeur. Quand ils vont quelque part, en fait, il dit toujours « Vous êtes, par exemple, à Shanghai ». Voilà,
en fait, c'est un gamin qui adore l'informatique. Donc, il reste dans sa chambre, il a 3 écrans et il bidouille tout via informatique et pour aider Carmen dans ses missions.
Mais en fait, il l'a jamais vu. Donc, c'est... Voilà. Puis, il y a une deuxième fille aussi.
Y a un frère et une sœur irlandais. Oui. Qui vont l'aider, là, par contre, sur le terrain, effectuer ses missions. Donc, c'est un peu les leurs, les diversions, les trucs comme ça, ils vont s'habiller et tout ça.
Et sur Netflix aussi, il y a l'interactif, en fait. Tu te lances, en fait, tu lances et tu... En fait, il va falloir que tu...
On peut choisir le déroulé de l'histoire, c'est
voilà,
ça.
Voilà, il faut choisir le bon déroulé pour...
Résoudre l'affaire.
C'est pas vraiment résoudre une affaire, je veux pas...
Voilà,
c'est pour bien que ça se passe, quoi.
D'accord.
C'est un peu comme Border Snatch sur Black Mirror, je sais pas si vous l'avez fait.
Si, ouais.
Voilà,
ouais,
c'est le même système.
Je pensais à ça, justement.
Et moi, ce que j'ai bien aimé dans les personnages aussi, c'est que... finalement, hormis Carmen, qui est quand même très stéréotypée, c'est quand même une grande, belle, mince, tout ça, mais le reste des personnages... sont quand même plus divers. Il y a une de celles qui l'aide n'est pas forcément longiligne.
Elle est racisée, hein, elle est sud-américaine. Carmen.
Ouais, alors c'est pas flag. Hein, y a à part un... le Carmen Sandiego, tu veux me dire. C'est vrai, j'avais un indice, pardon.
Mais ça, sinon, elle a été trouvée en Amérique du Sud et la base des méchants est en Amérique du Sud.
D'accord.
Okay. Bah voilà.
Oui, bah, pardon, ah, excusez-moi.
Mais c'est vrai que...
pas vu, hein.
Elle m'avait l'air d'être une magnifique rousse. Bon, je
ça voilà, clash.
Mais c'est vrai qu'en fait... C'est
moyennement Amérique du Sud, quand même. Pas.
C'est... c'est très divers parce que ben forcément, vu qu'il parcourt le monde, il rencontre des personnes de partout. Et donc, au final, ben, on a une diversité de personnes.
C'est un peu plus rondelette, quoi. C'était bien, ça changeait d'habitude.
Ouais.
Ouais, mais ça reste quand même un personnage secondaire, tu vois.
Ah, oui.
Qui, du coup, met en exergue la qualité.
Et en plus, on la voit pas tout de suite. Elle arrive pas tout de suite dans la série. D'abord, Carmen, elle travaille en solo et elle est avec Player, justement, celui qui est toujours sur son ordinateur.
Bon. Bon.
Ouais, voilà. Bon, d'accord. Bah. On va demain qu'on a une grosse bien charpentée et tout.
Et bien métisse.
Héroïne et badass.
Et qu'il ne soit pas le faire-valoir de l'héroïne.
Mais on va écrire mais, ça voilà. Pendant l'été.
Mais c'est déjà bien. La série est quand même bien.
Bon, à voir. Du
en
coup,
tout cas, ça donne très envie de le voir. Moi, et j'ai déjà mon programme.
Ouais, carrément. Alors, on passe à une autre série, peut-être, avec Marin, cette fois-ci.
Bah, un film.
Un film.
Oui, un film qui est sorti début juin et qui est le film Petite Maman.
Oh,
oui. Bah, voilà, Lily, tout à l'heure, pour Gillian Anderson, c'est ça. Il y avait plein de... d'adjectifs et voilà, donc je vais en reprendre quelques-uns. Donc petite maman de la géniale, la fabuleuse, l'iconique et je dirais même l'essentiel Céline Sciamma.
Tu nous avais fait un petit appel dès le départ dans l'émission avec Céline Sciamma.
Ah, bref. Oui, c'était le cri du cœur. Mais voilà, encore à la réalisation et au scénario. Un film qui est produit par Pyramide Productions. Et voilà, si vous avez 1h15 environ à passer blotti à nouveau dans l'univers de Céline Sciamma, foncez. Je pense que pendant l'été, il sera certainement encore diffusé. Ou alors, voilà, faut trouver par tous les moyens une solution pour le voir.
Tout à fait légal, bien sûr.
Oui.
Voilà. On est d'accord.
Donc voilà, je voulais juste vous donner les noms des acteurs, des actrices et de l'acteur.
On n'a pas le droit à un petit pitch aussi.
Et bah après, oui, je vous donne un petit pitch aussi. Du coup, voilà, deux... Ah oui, si, c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça, mais...
Comme donc, tu veux.
C'est Joséphine et Gabriel, je dirais Sands, S-A-N-Z, je ne prononce pas, certainement pas très bien leur nom de famille. Nina Meurice et
beaucoup mieux que Lily de toute manière.
Oh, ça clash en direct.
Et Stéphane Varupen. Voilà, qui sont à l'affiche de ce film. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nelly et qui vient de perdre sa maman. Ça commence par une scène inaugurale. Voilà, la scène inaugurale est vraiment magnifique. On est dans un rythme très lent, très doux, où la petite fille dit au revoir à plusieurs personnes âgées. Et en fait, on est en train de quitter, en même temps que cette petite fille et sa maman, la maison de retraite dans laquelle a vécu sa grand-mère. Et voilà, donc on se doute que le décès vient de survenir. Ça fait à peine quelques jours. La maman récupère les affaires dans la chambre, voilà, dans cette chambre. Et puis, il va s'agir d'aller dans la maison d'enfance de la maman de Nelly, donc de sa grand-mère. Vous me suivez jusque-là entre les petites filles, mère et grand-mère.
C'est bon.
Et du coup, dans la maison de la grand-mère, c'est un dernier voyage pour récupérer les affaires avant, on imagine, voilà, de vendre la maison. Et voilà, donc pendant que la maman de Nelly est occupée à trier, ranger et récupérer ses affaires, eh bien, la petite fille va essayer de retrouver un peu le coin où sa maman jouait et où se trouvait sa cabane dans les arbres. Et voilà, et en fait, elle va faire la rencontre d'une petite fille qui a le même âge qu'elle, qui a 8 ans, et qui s'appelle Marion. Marion, c'est le prénom de la maman, et en fait, il n'y a pas de divulgachage, puisque c'est donné dès les éléments de la bande-annonce. Eh bien, cette petite fille, Marion, de 8 ans, c'est la petite maman, c'est la maman de Nelly, à son âge, en fait. Donc, elle rencontre, comme ça, de manière un peu fantastique, sa maman.
J'en ai des frissons. Là.
Et ouais, c'est
ouais, vraiment quand même nettement mieux que.
Non, c'est un film qui est merveilleux, qui est superbe, qui est dans un rythme très, très particulier. Si je me souviens bien, il y a très peu de musique, donc de son extérieur. On va être dans des silences, on va. Je sais pas, j'ai pas regardé sur le détail si c'est une prise de son en direct ou. Mais il y a des ambiances comme ça qui sont assez.
Ça a l'air très onirique en fait.
Oui, très. Et en fait, ce fantastique, il vient se mêler au réel de façon très très délicate. Le cheminement, voilà, il n'y a pas. Pour que Nelly retrouve sa maman au même âge qu'elle, il n'y a pas d'effets spéciaux, on reste vraiment dans quelque chose de très simple, très délicat. On est dans des paysages automnales qui sont aussi magnifiques. Enfin voilà, c'est très très beau. Et voilà, encore une fois, Céline Sciamma, elle vient reboucher lentement, mais sûrement, cet immense fossé des images manquantes, en fait, avec ce on a parlé tout à l'heure, je pense, de female gaze, de regard dit féminin, enfin voilà, de cette approche et de ces constructions d'histoire et cette manière de filmer. Et là, je pense que pour Petite Maman, dans les quelques interviews que j'ai dû écouter et quelques petites choses que j'ai dû lire, je pense qu'on parle même de kid gaze, donc de regard à échelle d'enfant. Voilà. Et tout est magnifique.
Si elle réussit ce tour-là de nous faire voir à travers un regard d'enfant.
Ouais, très simplement dans les interactions entre les deux petites filles, donc jouées par Gabrielle et Joséphine Sands. Voilà, c'est des choses, c'est très simple. On vient en rupture. Sur des codes vestimentaires, sur des jeux, justement. Vous en parliez tout à l'heure, hein, toutes et tous, autour de, tiens, les personnages féminins, on les met dans tel type de rôle et ça fait du bien parce que ça change et tout ça. Bah, là, c'est pareil, mais encore d'une autre manière. Et oui, enfin, j'ai trouvé ce film sublime. Je pense que je vais laisser encore quelques mois passer, mais je pense qu'il arrivera très rapidement en laissant un peu retomber la folie. Dans le top 3 et je pense que le top 3 de mes films préférés, ben, toutes les marches sont prises par du Céline Sciamma, ben. C'est fou hein.
Ben, je crois qu'on finit en apothéose là parce que tu nous as tous donné très très envie d'aller voir ce film.
Oui, j'espère qu'il est diffusé encore quelques temps. Sur du grand écran, ça vaut vraiment le coup.
Après, normalement les films comme ça, on les trouve rapidement en VOD par la suite ou sur une plateforme de streaming, donc au pire, on trouvera cette manière-là.
Faut trouver quelqu'un qui a un rétro, un vidéoprojecteur. Pour s'immerger dans cette ambiance.
Donc voilà, vous avez plein de recommandations culturelles pour voir films, séries, dessins animés. On se retrouve le mois prochain avec d'autres recommandations culturelles, je l'espère. Mouna avait encore une série à nous présenter, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. Donc peut-être tu pourras revenir la prochaine fois. Voilà, donc très bon été à tous. Et puis on se retrouve très vite. Bonne écoute et voilà, ciao.
À bientôt.
Bon été. Ciao, ciao.
Bon été.
Au revoir.
Le gang des histoires.
Le gang. Pouf. Bim.